Bonjour bien-aimés, nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce matin dans sa maison. Sa maison n'est pas faite que de parpaings ni de murs, sa maison est faite du rassemblement de ses enfants. Nous, rassemblés, nous sommes la maison de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne de nous rendre compte de la grâce qui est la nôtre, de pouvoir être dans sa maison, de pouvoir le célébrer. Souvenons-nous, si cela nous a échappé, que certains de nos frères dans le monde n'ont pas ce privilège. Ils voudraient tellement l'avoir, et pourtant, les circonstances, les occasions, les situations de leur pays font qu'ils ne l'ont pas. Nous qui jouissons de cette liberté, n'en faisons pas une option. Que venir au culte ne soit pas une option. Que ce soit une priorité. Que ce soit une priorité. Le dimanche matin, en tout cas pour l'instant, c'est le temps que nous avons où Dieu nous invite à nous rassembler dans sa maison. Cette semaine ouvre une semaine particulière pour le monde chrétien, pour le christianisme. C'est une semaine qui doit nous rappeler que notre foi n'aurait pas de sens si cette semaine n'avait pas existé il y a près de 2000 ans. Si cette semaine n'avait pas existé, nous ne serions pas là et le monde serait bien embêté. Parce que le monde serait sans sauveur. Cette semaine est communément appelée la semaine sainte, la semaine pascale. La semaine où nous nous rappelons d'une des portions, d'une des séquences, d'un des aspects les plus importants de la vie de Jésus. Fils de Dieu, fait homme, venu sur terre. Et c'est pour cette semaine qu'il est né, c'est pour cette semaine qu'il est venu finalement. À plusieurs reprises, Jésus, dans les évangiles synoptiques, a refusé de monter à Jérusalem expressement. Et cette dernière semaine, il va monter de façon officielle. Et même quand on lit l'évangile de Jean, on a le sentiment qu'il y est allé quand même, mais qu'il est allé en incognito. Parce que c'était pas le moment de se déclarer officiellement dans cette ville. Pour un juif, Jérusalem est une ville très 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 symbolique. C'est la ville de Dieu. C'est la ville de Dieu. C'est là que les deux temples ont été construits. Celui qui avait été construit avant d'être détruit est celui qui a été restauré. Et toute l'actualité en Palestine nous rappelle que ce lieu est un lieu rempli de symboles, mais pas que de symboles. C'est un lieu rempli historiquement, mais spirituellement. Au point où les deux grandes religions monothéistes se font la guerre sur cette portion de terre. Se font la guerre. J'aimerais vous rappeler quelques aspects de cette semaine pascale, cette semaine sainte. J'ai un document, si vous voulez, je pourrais en faire la photocopie. Vous savez, on doit être aussi un peu écolo, semble-t-il. Donc, je ne fais plus de photocopies comme ça pour les mettre, parce que parfois, quand on les faisait, les photocopies, elles restaient. Si vous voulez un exemplaire de cette chronologie de la semaine pascale, vous me verrez après et on vous fera une copie. D'après plusieurs documents recoupés, on peut vivre cette semaine de façon particulière. Le vendredi, d'avant ce dimanche, il y a près de 2000 ans, Jésus s'approchait de Jérusalem, d'une ville qui s'appelait Béthanie. Là, il va prendre un repas avec la famille de Lazare, Marie. Et là, Marie va faire quelque chose qui va rester dans l'histoire. Marie va casser un parfum sur le pied de Jésus. Et on appelle ça l'onction de Marie. Hein, vous savez, oindre quelqu'un, c'est le couvrir d'huile, en tout cas, d'une substance particulière, comme pour l'adober, comme pour l'honorer. Et quand Marie va faire ce acte, les disciples vont dire quelque chose d'un peu déplacé, et Jésus va leur dire, ce qu'elle a fait, C'est un acte majeur qui va être même rappelé au cours de l'histoire. Parce que c'était une façon d'ouvrir cette dernière séquence de la vie de Jésus. Et ça va se passer ce vendredi-là, à la porte de Jérusalem. Deux jours plus tard, et nous sommes le dimanche, ce qu'on appelle maintenant le dimanche de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ce dimanche-là, Jésus va rentrer à Jérusalem, et nous aurons l'occasion ce matin de regarder ce texte pour nous encourager sur la portée de cette entrée de Jésus à Jérusalem. La chronologie que j'ai me rapporte à mardi. Mardi, dans cette ville de Jérusalem, Jésus va rencontrer cette confrontation avec les autorités religieuses. Il va avoir plusieurs controverses avec eux. Il va même avoir cette autorité d'aller libérer le temple de ce qui ne devait pas être dans le temple. C'est cette séquence où Jésus va renverser les tables de commerçants et va dire « La maison de mon Père est une maison de prière et non une maison de trafic. » Et les gens vont dire « Mais de quelle autorité ? Il n'est même pas un sacrificateur, il n'est même pas une autorité de Jérusalem. Qui lui a donné cette autorité-là » Et puis le mercredi, va commencer à se resserrer le complot contre Jésus. Vu qu'il a posé ce acte et qu'il est rentré officiellement à Jérusalem, les chefs religieux vont décider de façon plus sereine et plus certaine de porter atteinte à la vie de Jésus. Ils vont commencer à comploter. Et c'est là que Judas aussi, malheureusement, va être cet agent de la trahison de Jésus dans ce complot. Il ira les rencontrer et ils trouveront un accord avec Judas. Le jeudi, ça sera le dernier repas du Seigneur, le repas de la Pâque. Tout juif, jeudi soir, la veille de ce vendredi, fête la Pâque. C'est là qu'ils prennent ce repas et que plusieurs viennent à Jérusalem. Et on le verra dans le texte. Les juifs, tous ceux qui peuvent, font le pèlerinage jusqu'à Jérusalem parce qu'un juif, vivre la Pâque à Jérusalem, c'est ça qu'il faut faire. Tant qu'ils peuvent monter à Jérusalem, ils montent tous à Jérusalem pour vivre la Pâque. Et Jésus va prendre la Pâque avec ses disciples. Et c'est là aussi qu'après ce repas, il va se retrouver dans ce temps de prière où il va être finalement arrêté. Toute la nuit du jeudi jusqu'à vendredi, il va avoir ce procès nocturne qu'il va devoir attendre le vendredi matin pour avoir une finale plus officielle avec sa condamnation à mort. Jésus sera donc condamné à mort le vendredi au petit matin et sera exécuté ce même vendredi. Il sera crucifié ce vendredi et en début d'après-midi, Jésus rendra l'âme. Et ça sera le silence depuis ce vendredi jusqu'au petit matin du dimanche, où le Seigneur, par Dieu le Père, sera de nouveau vivant, parce que ressuscité par Dieu. Voilà la chronologie de cette semaine sainte. Il est intéressant de pouvoir regarder cette semaine, de pouvoir vivre ces choses, et de voir comment les mettre en parallèle avec notre marche à nous. Vas-y s'il te plaît. Nous voulons voir ce matin, ce dimanche, qui est appelé l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et dans d'autres milieux religieux, ça s'appelle le dimanche des rameaux. Mais c'est plutôt la présentation officielle de Jésus-Christ, en tant que le Messie d'Israël et le Messie du monde entier. Et je vous propose de faire la lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 12, je lirai du verset 1 jusqu'au 10, verset 19, et vous retrouvez ce même récit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21. Mais je souhaitais faire cette lecture dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 12, à partir du verset 12 dans vos versions, dans ce que j'ai affiché, mais je commencerai à lire à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, et c'est ça qui nous situe la semaine pascale, parce que c'est Jean qui nous donne ce repère chronologique. 6 jours, je suis au verset 1, avant d'arriver au verset 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. C'est ressuscité d'entre les morts. Là, en donnant un dîner pour lui, Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc prit un livre de parfum, c'est une mesure, hein, un livre de parfum de nardes pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela, non parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, « Laisse-la garder cela pour le jour de mon ensevelissement. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » La grande foule des Juifs sut qu'il était là. Il vint non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidaient alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'en allaient à cause de lui et mettaient leur foi en Jésus. Verset 12. Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmiers et sortirent au devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors il se souvint que cela était écrit à son sujet et qu'il avait fait cela pour lui. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le réveiller d'entre les morts, lui rendit témoignage. C'est pourquoi la foule vint au-devant de lui, elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens se disent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous n'y pouvez rien, le monde s'en est allé à sa suite. » Dans le récit de Matthieu, on a encore des détails pour enrichir cet épisode de la montée de Jésus à Jérusalem. Vas-y, s'il te plaît. Cette entrée de Jésus est un peu scénarisée par Jésus. Jésus met son entrée à Jérusalem en scène. Parce qu'il y a un texte de l'Ancien Testament qui parle de cette entrée à Jérusalem. C'est celui de Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Danse de toutes tes forces, fille de Sion. Oui, pousse des cris de joie à Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Ah, Éphraïm, il supprimera les chars de guerre, et à Jérusalem, il supprimera les chevaux. Il cassera les arcs de combat, il établira la paix parmi les peuples. Zacharie, dans l'Ancien Testament, plusieurs siècles avant Jésus, avait prédit. C'est l'un des signes du Messie entrant à Jérusalem. Pourquoi c'est un signe? Parce qu'en général, vas-y, la diapo d'après, s'il te plaît. Parce qu'en général, les rois n'entrent pas dans des villes comme Jérusalem avec sur un anneau ou une ânesse. Ils rentrent sur les plus beaux et les plus vigoureux chevaux de guerre. Parce que c'est des conquérants. Le cheval, à l'époque, les puissants, comme on disait, étaient comme des instruments de guerre. On ne parle pas des chevaux de labourage, mais on parle de ces chevaux qui étaient vraiment dressés de cette façon-là. Les chevaux des rois, les chevaux des guerriers étaient vraiment des chevaux. C'était des âmes, quand on les voyait, on sentait la guerre. Et c'est pour cela que l'ânon et l'ânesse est choisi, parce que l'ânon et l'ânesse, dans la symbolique hébraïque, est plutôt un symbole de paix. Et Jésus, justement, monte sur ce symbole de paix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les rois n'arrivaient pas dans les grandes villes comme cela. et en plus à Jérusalem, la ville de Dieu. Et Jésus arrive dans cette ville monté sur le petit d'une ânesse, un ânon. Comme il le fait de toute son existence, il accomplit exactement toutes les prophéties qui étaient annoncées sur lui. Il va dire aux disciples, « Allez là, dites à un tel que le Seigneur a besoin d'un ânon et d'une ânesse. » Et lors de cette rentrée, Jésus porte l'un de ses attributs, l'une de ses désignations qui est faite très tôt dans le prophète Ésaïe, chapitre 9, où Ésaïe dit avec une attention particulière, on l'appellera prince de la paix. Prince de la paix. Jésus se présente donc comme un roi, pas comme un roi guerrier. Pas comme un roi qui vient faire la guerre, mais un roi qui vient établir la paix. Un roi qui vient établir la paix. Vous avez quelques éléments là qui disent cela, n'est-ce pas? Et le terme Hosanna est un terme hébraïque que ceux qui étaient sur tout ce chemin criaient à la vue de Jésus. Vous savez que cette montée à Jérusalem faisait aussi écho avec le chant des psaumes. Hein? Il y a des psaumes qu'on appelle les psaumes de la montée. Hein? Quand un juif monte à Jérusalem, il y a un certain nombre de psaumes qu'il chante. C'est des psaumes à la gloire de Dieu, à la gloire de la ville de Dieu, à la gloire de Jérusalem. Et justement, le psaume 118 fait partie des psaumes de la montée. Et ils prennent ce psaume qui est un psaume messianique pour Jésus. Hosanna, celui qui accorde le salut. Celui qui sauve maintenant, celui qui vient, celui qui devait venir, le roi d'Israël. On ne sait pas si au moment où les foules chantent cela, si elles sont conscientes de la portée prophétique et puissante de ce qu'elles sont en train de dire. Mais en tout cas, ces foules, qui sont pour la majorité des Galiléens, ont vu Jésus dans ses œuvres durant 3 ans. Elles ont vu sillonner les hameaux et les villages, proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, manifester la puissance que Dieu manifeste devant des cas impossibles. Ils l'ont vu guérir des lépreux, ils l'ont vu ressusciter 2 ou 3 personnes mortes, ils l'ont vu guérir toutes sortes de maladies, ils l'ont vu apporter assistance aux gens affamés. Ils l'ont vu aux côtés des gens qui n'étaient pas des gens de bonne fréquentation. Ils l'ont vu même réhabiliter des gens qui étaient des gens corrompus de la haute société. Ils ont vu tout ça de Jésus. Ils ont fini par se convaincre qu'il n'était pas comme les autres rabbins. Et régulièrement, ces foules disaient, il n'est pas comme nos autorités spirituelles. Il est comme ayant autorité, comme si cette parole que nous avons reçue de Dieu, en fait, qu'il était l'auteur de la parole. Et Jésus disait régulièrement, même si vous ne croyez pas, croyez à cause des œuvres que vous me voyez faire. Croyez à cause des œuvres que vous me voyez faire. Vas-y. Et toute la symbolique qu'il y a au cours de cette célébration est une symbolique vraiment de célébration de l'entrée d'un roi dans une ville. Toutes ces branches de rameaux coupés qu'ils lèvent, toutes ces pagnes qu'ils mettent sur le chemin de Jésus. C'est ce qu'on faisait quand un roi rentrait dans une ville. La population l'accueillait avec des branchages. Certains jetaient des toiles, de tissu au pied de ce cheval qui avançait dans la ville. Et ces populations font pareil pour Jésus. En tout cas, tous ceux qui viennent de l'extérieur, qui sont en train de rentrer à Jérusalem, font pareil. Ce qui, du reste, trouble un peu les habitants de Jérusalem, parce que eux, jusque-là, ils n'ont pas vu Jésus dans sa manifestation glorieuse. Puisque, comme je vous l'ai dit au départ, Jésus n'a pas souhaité se manifester avant cette heure, de façon publique à Jérusalem. Donc, ceux qui étaient de Jérusalem sont quand même un peu étonnés, et ça commence à poser des questions. Vas-y, s'il te plaît. Ce qui est intéressant, c'est que Matthieu dit que même les enfants aussi, étaient dans ce cortège. Hosanna! Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David. Le mot Hosanna est un mot chargé de sens. C'est celui qui vient sauver. Celui qu'on attendait. Le roi d'Israël. Il est là aujourd'hui. Il va nous sauver. Il va nous délivrer. Il va nous apporter la paix qu'on attendait. Toute la ville de Jérusalem fut émue parce qu'il se disait, mais c'est qui ce personnage que nous ne connaissons pas, que les gens acclament depuis l'extérieur de la ville? On entend des clameurs et ces clameurs ne s'arrêtent pas, elles avancent vers la ville. C'est qui celui-là? Qui arrive encore à Jérusalem? Et tous ceux qui l'avaient croisé ou qui avaient entendu parler de lui en dehors de Jérusalem disaient, mais vous ne savez pas qui c'est? C'est le prophète de Nazareth. Or, il y avait aussi une prophétie sur ce prophète de Nazareth. Il y avait une prophétie sur ce prophète de Nazareth. C'était une prophétie de Moïse. C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. En tant que le prophète, il est aussi celui promis par Moïse. En Deutéronome chapitre 18, verset 15. Quand on sait tout l'attachement des Juifs à la personne de Moïse, Jésus accomplissait là aussi. On dit c'est le nouveau Moïse. Il accomplissait une prophétie. Celui qui avait été annoncé, même par Moïse. C'est pour cela que méditer ce texte ensemble ce matin nous permet de rentrer dans toute la dimension puissante de cet événement. Sinon, parfois, on passe dessus vite fait. Ah, Jésus est rentré à Jérusalem. Non, il n'est pas juste rentré à Jérusalem. Cette entrée-là, ce dimanche-là, c'était un marqueur officiel de ce qu'il était. Parce que Jérusalem, c'est la capitale du royaume. Et celui qui est roi en Israël, bah, c'est là qu'il réside. C'est là qu'il a son autorité. C'est là que son autorité doit être reconnue. Il y a quelque chose de triste quand même. Et Jésus, et c'est Luc qui va nous le dire, vas-y, Jésus pleura sur la ville. Quand on part dans la même section, mais dans le chapitre 19 de Luc, Luc nous rapporte un événement qui s'est produit ce jour-là. Vas-y. Luc chapitre 19. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Luc 19, à partir du verset 41. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Si le peuple avait reconnu en Jésus le Messie, les autorités religieuses, ceux qui dominaient, ceux qui avaient le pouvoir à Jérusalem, n'ont pas reconnu Jésus. C'est pour ça que Jésus pleure. Parce que c'est ceux qui sont en autorité qui conduisent le peuple. Et c'est pour ça que Jésus est sévère avec eux à partir du chapitre 24 de Matthieu. Quand il va commencer à les dénoncer, il dit « Vous êtes non seulement des aveugles, mais votre cécité est terrifiante parce que vous conduisez d'autres dans le mauvais chemin. Vous êtes des mauvais bergers. » C'est pour ça que Jésus pleure sur Jérusalem. Il ne pleure pas sur les habitants, il pleure sur les autorités qui sont enfermées dans une lutte politique, dans une lutte de responsabilité, d'autorité, et qui s'acharnent à ne pas regarder la réalisation de la prophétie de Dieu. Un peu comme Pharaon. Il dit parce que vous vous êtes détourné, parce que vos motivations ne sont pas bien, Dieu vous a laissé vous égarer dans votre incrédulité. Dieu aurait bien voulu vous sauver. dans un autre passage, sur cette même image, il dit comme une poule protège ses poussins, combien j'aurais voulu protéger Jérusalem, ville de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce qui s'est passé un certain 16 avril, ici en France. Un certain 16 avril, une grande bâtisse religieuse a pris feu à Paris. On était en pleine période pascale aussi. Il y a eu plein de commentaires sur ça. Moi, je me suis dit, ça me fait réfléchir sur ce chapitre 19 de Luc. Jésus pleura sur Jérusalem. Devant cette construction, cette architecture, ô combien estimée en feu, finalement, je me suis dit, peut-être que Dieu pleure sur Paris. Souvenez-vous que nous étions dans cette période où il y a eu tout un changement dans notre façon de vivre en France. Je ne sais pas ce que Dieu a fait, moi j'en sais rien. Mais ça m'interroge. Pourquoi? Alors que nous étions en pleine période pascale, ce bâtiment a pris feu. Jésus pleura sur la ville. Dieu pleure sur nos grandes civilisations, puisqu'il semble que nos grandes civilisations sont devenues des civilisations qui sont tellement modernes qu'elles se sont passées de Dieu. On n'a plus besoin de Dieu. De toutes les façons, la morale chrétienne, on n'en veut plus du tout. Elle est ringarde, elle est inhumaine, elle ne considère pas l'autonomie de l'homme, elle l'infantilise. Nous, on veut faire ce qu'on a envie de faire avec qui on a envie de faire. Et c'est pas une loi religieuse qui va nous y empêcher. Encore que, en face, l'autre religion leur donne le bâton pour nous battre. Puisque l'autre religion en face fait le contraire d'une religion. Elle tue, elle assassine hommes et enfants. Elle terrorise. Et on met toutes les religions dans le même sac. On fait pas de distinction. Jésus pleure sur la ville. Souvenez-vous d'un certain mois de mars 2018. Justement, pendant qu'un membre de cette religion était en train de faire quelque chose d'inhumain, un gendarme va se présenter lors d'une prise d'otage. Un gendarme va demander à être remplacé par l'otage. Ce gendarme va même trouver la mort. Il va donner sa vie pour que les otages soient sauvés. C'était en mars 2018. Après, on a appris qu'il était chrétien. Chrétien catholique. Quel acte de bravoure. Il a donné sa vie. Les gendarmes ont dit, c'est notre métier. On est là pour donner nos vies. Mais quand même. Alors, quand on parle de ces choses, il faut nous souvenir. Cet événement, ce dimanche de l'entrée triomphale de Jésus, cet événement-là présente officiellement Jésus-Christ à la nation d'Israël en tant que le fils légitime de David. C'est de lui que toutes les prophéties parlent. C'est Jésus dont parlaient les prophéties. La descendance de David. Un des textes majeurs qu'il faut visiter, méditer pendant cette période de Pâques, c'est Ésaïe. Jésus avait à l'esprit tous les prophètes de l'Ancien Testament. Je vous ai cité Zacharie, je vous ai parlé de Moïse, et certainement aussi cette prophétie de Daniel. Cette prophétie de Daniel, qui concernait la venue du Messie. Jésus arrive à Jérusalem au moment précis d'après certains commentateurs exégètes, où la prophétie de Daniel va se réaliser 500 ans après, 5 siècles, comme s'il arrivait là au moment où Daniel a dit, c'est à ce moment-là que le Messie serait à Jérusalem. Parfois, nous doutons de ce que nous sommes. Le monde nous fait douter de la vérité de ce dans quoi Dieu nous a placés. Bien-aimés, l'histoire de notre monde montre que ce Jésus, nous avons la grâce, il est rentré dans nos vies de façon peut-être tellement simple que finalement, la portée de ce Jésus, on la maîtrise pas toujours. C'est pour cela que quelquefois, en réfléchissant à ce que je suis devenu en tant que chrétien, en réfléchissant au Seigneur de la Bible, j'ai des frissons de crainte et de tremblement parce que quand même. Il nous donne la liberté de le tutoyer, il nous donne la liberté d'être avec lui dans une intimité incroyable et pourtant, il n'est pas n'importe qui. Il est le Messie, le roi sauveur, non seulement du peuple de Dieu, mais de toutes les nations. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant tout ce que je vous ai appris. C'est de ce Jésus-là dont nous parlons. Vas-y, s'il te plaît. Et exactement, Isaïe, 7 siècles avant, Isaïe va dire, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sepulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et plongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Je vous laisse méditer ce texte. Quand Isaïe apporte cette prophétie, le peuple d'Israël est dans le tourment. Le peuple d'Israël est sous la domination de Babylone, avec cette politique de déportation, où ils sont extirpés de leur terre natale et envoyés un peu dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Et donc ils se posent des questions. Dieu est-il le souverain de l'histoire ? Parce que si Dieu est souverain de l'histoire, comment se fait-il que des nations païennes ont pris le dessus sur le peuple de Dieu? Est-ce qu'on a encore un rôle en tant que peuple de Dieu dans ce monde vu qu'on est en train d'être décimé? Est-ce que Dieu nous a jugés? Est-ce que ça veut dire que Dieu a rejeté son peuple? Quelle est la nature de la confiance qu'Israël peut avoir encore en Dieu? Quel est l'avenir de cette postérité dont nous ont parlé les prophètes, la descendance de David, puisqu'on n'a même plus de terre, on n'a même plus de territoire? Est-ce que les idoles païennes ont fini par vaincre le Dieu d'Israël? Ils étaient embrouillés. Et c'est là que Dieu donne cette prophétie à Isaïe. Alors que le peuple est déconstruit, Dieu donne cette prophétie forte à Isaïe. Et Isaïe dira, si je vous l'annonce pas maintenant, quand ça va se réaliser, vous ne le croirez pas. Mais Dieu l'annonce par avance pour que quand ça se réalisera, que les gens disent, il avait dit dans le passé. Et c'est pour ça que Jésus, dans son ministère, il manifeste chaque aspect de la prophétie de Jésus. Pour que justement ce que Isaïe disait, il dit, je l'annonce par avance pour que quand ça va se réaliser, vous sachiez que c'était la main de l'Éternel. 7 siècles avant. Et tout le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, résume le ministère de Jésus dans cette portée de ce qu'on appelle le chant du serviteur dans Isaïe. Les évangélistes, dans les 4 évangiles, vont reprendre les propos d'Isaïe. Jésus va être appelé mon serviteur, celui qui fait toute ma joie. J'ai mis en lui mon esprit. Il établira le droit sur le peuple. Le serviteur accomplira les œuvres de manière non violente. Il prendra soin des faibles, des opprimés, de ceux qui ploient sous le poids de la souffrance. Et quand les disciples de Jean-Baptiste vont venir l'interroger, il va dire aux disciples de Jean-Baptiste, que voyez-vous? Qu'est-ce qui est en train de se manifester? En fait, il dit aux disciples de Jean-Baptiste, c'est qu'Isaïe et les prophètes ont dit, c'est ce que je suis en train de manifester. Donc je suis bel et bien le Messie. Est-ce que tu réalises la grâce que tu as d'avoir rencontré, de t'être laissé rencontrer par ce Messie, par le Fils de Dieu? Hosanna, viens nous sauver. Hosanna, celui qui devrait venir, est venu. Il est venu jusqu'à toi. Il est venu jusqu'à moi. Et Jean va dire dans son évangile, chapitre 1er, il est venu parmi les siens, et malheureusement, les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de par la grâce de Dieu. À ceux-là, il a fait d'eux ses frères et ses sœurs de la famille de Dieu. J'aimerais terminer cette méditation pour nous encourager au cours de cette semaine avec ce texte. Jésus, le roi, le Messie, dira que la nouvelle alliance se résume dans ce verset. Il dit la loi et les prophètes. Donc ça veut dire toute la révélation de Dieu se résume dans ce verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Si nous voulons, en tant que chrétiens, honorer celui qui est notre Père, qui est notre Sauveur, qui est notre Dieu, qui est notre bienfaiteur, prenons la peine, au cours de cette semaine, de visiter ce verset, de voir où nous en sommes, comment est-ce qu'il nous modèle, comment est-ce qu'il nous traverse, avec peut-être quelques questions que j'aime donner souvent, quand je veux que le Seigneur m'aide à réveiller ma foi, hein, vous savez, l'Église réformée 16e siècle, parce qu'il y a eu un temps de sommeil, et quand l'Église s'est réveillée au 16e siècle, l'Église a eu comme ce mot d'ordre, Église réveillée, réveille-toi toujours. Réveille-toi toujours. C'est un peu comme, vous savez, quand on a un gros coup de fatigue et puis rester éveillé. C'est important. Et pour rester éveillé, parfois, il faut se titiller avec un certain nombre de questions. Vas-y. Vas-y. Suis-je toujours saisi d'une crainte respectueuse pour la personne de Dieu? Ou ai-je commencé à le traiter comme un semblable ou un égal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, à cause d'être des chrétiens, Jésus est tellement notre ami que finalement, on ne fait pas attention. Et nous, les hommes, hier, on a réfléchi à comment déterminer les priorités dans nos vies. Et la première priorité que nous avons travaillée dans ce test qui nous a été proposé par Eric, c'était notre relation avec Dieu. La Bible dit que si on aime Dieu, on doit garder cette relation avec lui. Est-ce que ta relation avec Dieu, est-ce que ton regard sur la personne de Dieu? Je ne vais pas commenter toutes ces questions, mais en tout cas, ça doit nous aider. Ai-je toujours conscient du sérieux et de la gravité du péché dans ma vie? Ça a coûté la vie à Jésus-Christ. Il t'a redonné une nouvelle chance. Troisièmement, suis-je au clair sur la nécessité de me repentir quand je pêche et de fuir le péché? Quatrièmement, ne suis-je pas tombé dans la défaite, dans la superficialité, dans la médiocrité? Non, si ma vie est dans ces choses-là, je veux sortir de cette médiocrité. Je veux avoir une vie chrétienne dynamique, vivante, pour la gloire de mon Dieu. Deuxième série. Suis-je toujours en train de me plaindre de mon sort et toujours dans mon cœur un esprit de rancune, d'amertume, de jalousie, de jugement, de critique envers les autres? Ai-je constamment un cœur à cœur l'importance de la parole de Dieu pour ma vie personnelle? Ai-je toujours envie et soif de méditer cette parole? Suis-je constamment en train de fonctionner selon ma propre volonté, de sorte que je n'écoute plus la voix du Seigneur? C'est-à-dire, est-ce que quand je prends mes décisions, quand j'arrête des valeurs dans ma vie, est-ce que je fais l'effort de me demander est-ce que ces valeurs, est-ce que ces décisions sont conformes à la parole de Dieu? Ou maintenant, je suis grand, je prends mes décisions toutes seules, si voilà, je suis baptisé, je suis chrétien, ça fait quelques années. Oh, je fais ce que je veux. Qu'est devenue ma relation avec Jésus-Christ? Elle était devenue froide et distante, intermittente, banale, dépourvue d'intérêt pour la raison, dépourvue de sentiments. Qu'est devenue ma relation avec l'Église? Elle était devenue une affaire légaliste de devoirs contraignants accomplis sans conviction. Où en suis-je? Et puis enfin, suis-je encore touché, sensible à la misère des perdus? Nous ne sommes pas un club pour rester entre nous. Nous sommes là pour proclamer l'évangile de Jésus pour que d'autres qui ne connaissent pas Dieu viennent à lui. Est-ce que nous sommes toujours dans cette dynamique de l'évangélisation, du salut de ceux qui n'ont pas encore le salut, dans nos familles, peu importe où qu'ils soient? Suis-je sensible à l'importance du rôle de l'Église dans le monde? Ai-je perdu l'aspect spirituel, surnaturel de la foi chrétienne? Ai-je constamment dans mes priorités, mes enjeux spirituels, l'adoration de Dieu, la sanctification personnelle, la formation de disciples, le service du prochain, l'évangélisation du monde? J'ai aussi cette fiche. Pour ceux qui la voudraient, pouvez m'approcher tout à l'heure. Voilà, pour rentrer dans cette semaine pascale, voilà quelques éléments de méditation. Que le Seigneur soit celui qui nous donne de vivre ce temps pascal avec beaucoup de joie, avec beaucoup aussi de méditation, d'introspection, mais que nous en sortions avec la victoire du ressuscité. Amen.